introduire ce temps de méditation par deux versets que nous allons tirer dans l'Ancien Testament, un dans le livre des psaumes, le psaume 34. Le psaume 34, les versets 2 à 4. Le contexte, David est poursuivi par des méchants qui veulent à sa vie. Et au regard de tout cela et connaissant en celui qui est avec lui, David va proclamer ses paroles. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Amen. » Et cette deuxième lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38, Ésaïe chapitre 38, tout ce chapitre, dans ce chapitre, il est question de la maladie et du relèvement d'Ézéchias. Ézéchias qui, à un moment donné, va être devant le prophète. Dieu envoie son prophète devant Ézéchias pour lui annoncer la maladie par laquelle il pense que ce serait la fin. Et Ézéchias va s'humilier et dans son humiliation, Dieu va encore ajouter 15 années de plus à cet homme. Et dans ces circonstances douloureuses, tristes, il va pouvoir tout de même proclamer ceci. Verset 16, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père m'a fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Ah, je tressaille de joie en lisant ces paroles de cet homme, Ézéchias. Lorsque nous transposons la vie de cet homme à nos situations aujourd'hui, comment réagissons-nous? Comment je réagis lorsque je passe par des moments sombres? Comment je réagis? Il y a quelques années, l'aumônier de l'armée américaine a écrit un livre intitulé « De la prison à la louange ». Ce livre a encouragé bon nombre de chrétiens de diverses confessions. Alors qu'ils étaient dans la maladie, en dépressif, blessés, alors qu'ils étaient dans des conditions déplorables, par ce livre, ils ont été encouragés. Quelques années plus tard, ce même homme va écrire un deuxième livre qu'il intitule « La puissance de la louange ». Dans ces deux livres, cet homme va rappeler à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui peut se produire, tout le bouleversement qu'il peut y avoir dans nos vies lorsque nous conservons quelles que soient les circonstances, un esprit de louange. Dans le premier texte que nous avons lu, nous voyons David lorsqu'il est pourchassé par ceux qui en voulaient à sa vie, a décidé de louer Dieu. J'aimerais que l'on s'arrête un instant et que l'on considère cette situation que David traversait. Il nous est dit au verset 1er, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. La situation ne lui était pas favorable. Elle était douloureuse. Humainement, quelle honte lorsqu'on est chassé par quelqu'un d'autre. C'est une honte. C'est une honte. Lorsqu'on est pourchassé, ne sachant que faire, nous sommes démunis. Cet homme était démuni. Il était dans la souffrance. Personne pour l'aider. Mais dans sa situation, dans son désarroi, dans sa tristesse, David va faire quelque chose de glorieux. David, dans sa douleur, ne s'en est pas allé en se laissant gagner par la tristesse. Il ne s'est pas laissé gagner par la peur, par la crainte, en se disant « Que vais-je faire ?» Oui, humainement, il n'y avait point de solution. Mais quand tout semble fini pour les hommes, il y a un recours qui nous attend. Et je me permets de le dire, lorsque nous traversons des situations difficiles, c'est le premier recours que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Il a décidé de louer Dieu. Oh. Pasteur, Comment voulez-vous que je loue Dieu alors que vous voyez la situation dans laquelle je suis? Comment est-ce possible même d'exprimer, de faire sortir de ma bouche des paroles alors que dans mon cœur, il y a du chagrin? Ça peut arriver. Que nous soyons abattus. Que nous soyons mis à plat devant les difficultés. Nous nous souvenons dans le livre de Samuel, cette femme, Anne, voilà, lorsqu'elle était dans la souffrance, il nous est dit qu'elle n'arrivait même pas à ouvrir la bouche. Mais, il est là le scoop. Mais, lorsque Élie voyait les lèvres bouger, il croyait que cette femme était ivre. Mais cette femme n'était pas ivre, elle était en train de se confier en son Dieu. Elle était en train de remettre sa vie entre les mains de son Dieu. Voilà ce qu'il convient de faire, frères et sœurs. Oui, lorsque même je n'arrive pas à exprimer par des mots ce que je ressens dans mon cœur, je peux tout de même louer Dieu, même si personne ne voit. Il peut y avoir de la louange qui sort de ma bouche, même lorsque je traverse des situations difficiles. Sinon, alors que je connais Dieu, si je ne le fais pas, que diront ceux du dehors? Il est évident que ce n'est pas la louange qui va résoudre tous nos problèmes. Il est évident. Ce n'est pas parce que je loue Dieu que je suis exempt de toute difficulté. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. N'allez pas dire que le pasteur a dit, quand tu loues Dieu, il n'y aura plus de problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Mais elle est une ressource parmi tant d'autres que Dieu met à notre disposition. Alors que tout tente à nous amener à regarder qu'à nous-mêmes, confessons-le, tout autour de nous nous amène à nous enfermer sur nous-mêmes. On ne pense plus qu'à soi. On ne pense plus qu'à ma situation. Je ne pense plus qu'à ma situation, qu'à mon problème. Ça, c'est humain, ça. Vous ne le faites pas. Je sais que vous ne le faites pas. Mais tout tente à nous amener à regarder qu'à nous-mêmes, à notre propre vie, à nos difficultés, à nos souffrances, ou les circonstances qui nous entourent. Mais la louange nous conduit à regarder vers Dieu. Certes, la situation difficile, elle est là. David, lorsqu'il était pourchassé, il était dans une situation difficile. Mais malgré tout, il a eu la force de proclamer Dieu. Certes, les situations difficiles seront là, mais par la louange, je détache mes yeux de moi-même. Je détache mes yeux de ma situation. Je détache mes yeux de mon problème pour regarder vers mon Dieu. J'aimerais vous poser cette question. Quand nous lisons la parole de Dieu, comment le péché est entré dans le monde? Comment le péché est entré dans le monde? Oui, par la désobéissance, ça c'est vrai. Mais comment? Comment? Par le doute, oui, mais comment? Comment? Par la séduction, mais comment? Pourtant quand on n'a pas interrogé, mais pourtant, quand on lit la parole, c'est clair. Comment? Comment Satan a pu, par un mensonge, oui, mais j'attends un mot. Comment Satan a pu faire entrer la désobéissance dans le cœur d'Adam? Ça vient. Ben, je vais vous aider. Vous savez, lorsque Satan va dire à Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Par là, il a réussi à détourner l'attention d'Adam, qui était posé sur Dieu, pour se centrer sur lui-même. Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il dira à Adam, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ah, le regard maintenant, c'est sur lui. Ce n'est plus sur Dieu. Donc l'attention s'est détournée du principal. Voyez-vous, quand notre attention se détourne du principal, voyez où ça nous mène. Quand nous détournons notre regard de la personne même de Dieu, c'est devenu nous maintenant. On ne voit plus que nous. Et il a réussi, Satan, à détourner l'attention de l'homme qui devait sans cesse se porter sur Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit au chapitre 3 que Dieu, tous les soirs, allait dans le jardin pour être avec l'homme. Parce qu'il voulait que l'attention soit sur lui et pas sur l'homme. Voyez-vous, dès le départ, Dieu a manifesté sa grâce. Mais l'homme n'a pas su en tirer profit. Il s'est laissé détourner. Malheureusement, encore aujourd'hui, les circonstances de la vie et même parfois le diable nous amènent à détourner nos regards de celui qui est digne de nos louanges. Ainsi, nous nous centrons sur nos propres vies. J'aimerais voir deux choses avec vous au travers de ces deux textes. Qui doit louer Dieu? Qui doit louer Dieu? Tous les hommes peuvent-ils louer Dieu? Tous les hommes, je dis, écoutez bien, ne vous empressez pas de dire oui. Tous les hommes peuvent-ils louer Dieu? Oui, non. Qui dit vrai? Tous les hommes peuvent-ils louer Dieu? Vous savez, heureusement qu'on a la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Ézéchias va dire ceci. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui loue Dieu. C'est qui ce vivant? On peut se dire tous les hommes vivent sur la terre, mais il n'est pas question de tous les hommes. Il n'est pas question de celui qui ne fait pas cas de Dieu. Celui qui ne fait pas cas de Dieu, comment peut-il le louer? Celui qui ne connaît pas Dieu, comment peut-il le louer? Ces paroles nous montrent que la louange à Dieu provient de ceux qui ont été sauvés par grâce. Et nous le sommes. N'avons-nous pas été sauvés par grâce? N'avons-nous pas été rachetés au prix du sang de notre Seigneur? Alors pourquoi parfois nous sommes privés, nous privons Dieu de nos louanges? Pourquoi? Vous savez, de nos lèvres devra jaillir la reconnaissance à celui qui est à l'origine de nos vies, quelles que soient les situations. Au psaume 22, verset 4, il nous disait, dit ceci, que Dieu siège au milieu de la louange du peuple d'Israël, de son peuple. Nous sommes son peuple, n'est-ce pas? Nous appartenons à ce Dieu vivant, à ce Dieu qui nous a tant aimés. Il a aimé tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Donc tous les hommes ne peuvent pas louer Dieu. Ne peut louer Dieu que celui qui a la vie de Dieu en lui. Ne peut louer Dieu que celui qui confesse son nom. Ne peut louer Dieu que celui qui a reconnu qu'il est son Seigneur et Sauveur. Ne peut louer Dieu que celui qui se laisse conduire par lui. Ézéchias dira, le vivant, c'est celui-là qui te loue. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, nous qui étions morts par nos offenses. Éphésiens chapitre 2. Verset 1 à 6, l'apôtre, lorsqu'il s'adresse à ces chrétiens d'Éphèse, il leur montre comment ils sont séparés de Dieu à cause du péché. Ils sont séparés. Vous étiez morts par vos offenses. Voilà ce que nous étions, nous tous. C'était notre condition lorsque nous avons tourné le dos à Dieu. C'était ma condition, c'était votre condition. Vous étiez morts par vos offenses. Verset suivant. dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et non de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oh. Là, il y a une bouffée d'air. On peut respirer. On peut bénir Dieu. Parce que la condition dans laquelle nous étions était lamentable. Malheureusement, il y a encore des hommes qui sont dans cette condition. Et c'est dommage, parce que Dieu a tout fait pour que les hommes sortent de cette condition pour être dans une nouvelle condition. Il dira ceci: mais Dieu, qui est riche en bon, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a rendus vivants. J'aimerais dire ce matin, frères et sœurs, nous sommes doublement vivants. Tous les hommes vivent sur la terre, mais tous les hommes ne sont pas rendus à la vie. Quelle grâce pour nous d'être rendus à la vie. C'est quoi le point central de ce que l'apôtre va dire? Il veut montrer par là que l'œuvre de la rédemption et de la grâce réalisée dans la vocation et dans la conversion de ceux que Dieu a appelés des profonds, des ténèbres à la lumière et à la vie de l'évangile, il montre par là l'œuvre que Dieu a accomplie. Notre âme était moralement et spirituellement séparée de son Créateur. Vous étiez morts. Nous étions séparés de celui qui est la source unique de toute vie véritable sur la terre. Mais par sa grâce, Dieu nous a régénérés. C'est l'apôtre Pierre qui nous dira ceci dans sa première épître: « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pierre débute son épître par une action de grâce. Il débute son épître par une action de grâce pour le salut en Jésus. J'aimerais dire, frères et sœurs, en toute chose, il doit y avoir cette action de grâce-là. Au regard du salut que nous avons en Jésus. Il dira à l'apôtre Pierre, voilà, béni soit Dieu. Il rend grâce à Dieu de cette vie nouvelle qu'il nous a communiquée en Jésus. Avant de dire quoi que ce soit, parce que beaucoup de choses ont été dites dans l'épître de Pierre, mais avant tout, Pierre pose le fondement en nous montrant combien nous devons être reconnaissants à Dieu. Il fonde toutes les consolations, et parce que quand nous poursuivons la lecture, nous voyons Pierre qui console les chrétiens de toutes les afflictions, mais toutes ces consolations se fondent sur le salut en Jésus. Alors que nous vivions pour nous-mêmes autrefois, Paul va le dire, hein. Maintenant, puisque Christ est notre vie, ce qui fait que notre espérance est vivante, et il nous procure par là, par anticipation, la vie éternelle. J'aimerais dire ce matin, si Christ n'est pas votre vie, laissez-le le devenir. Si Christ n'est pas ta vie, laisse-le le devenir aujourd'hui. Parce que vous trouverez en lui force et réconfort pour affronter la vie de ce monde. On ne peut pas affronter la vie par nous-mêmes. D'emblée, nous serons vaincus. Mais parce que nous avons la vie, un Christ qui vit en nous, il nous donne la force de marcher victorieux et triomphant, quelles que soient les circonstances. C'est lui qui marche devant nous. C'est lui qui a plané le chemin. C'est lui qui nous tient dans ses mains. C'est lui qui, à la croix, a proclamé « Tout est accompli ». Vous savez, au regard de cette vie en Jésus-Christ et de l'espérance vivante qu'il nous a acquise, pouvons-nous continuer à regarder qu'en nous-mêmes? Lorsque l'apôtre Paul va parler de Jésus, il dira qu'il n'a pas regardé comme une poire arrachée à se faire égal à Dieu. Il n'a même pas regardé qu'à lui. Ça aurait été le cas, il ne serait pas allé jusqu'à la croix. Christ n'a pas regardé qu'à lui, il a mis de côté sa propre personne et il est allé jusqu'au bout pour vous et pour moi. Il a détourné son regard de lui-même alors qu'il était le Christ, alors qu'il était Dieu. Il a volontairement détaché son regard de lui-même pour aller jusqu'à la croix, afin d'amener les hommes vers Dieu, le Père. À cause de cela même, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, ne sommes-nous pas appelés à faire monter vers le Dieu du salut la louange qui lui est due, en nous rappelant qu'à cause de notre péché, nous étions incapables de recevoir quoi que ce soit de lui. Mais parce qu'il nous a sauvés, nous pouvons, en toute liberté, bénéficier. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Béni soit Dieu le Père, Paul, pardon, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelle grâce! Ainsi donc, nous sommes appelés à louer Dieu en tout temps. Et en tout lieu, parce qu'il en est digne. À cause, si nous le faisons, nos cœurs seront débordants de louanges, de reconnaissance à notre Dieu, à notre Seigneur. C'est le psalmiste qui dira ceci au psaume 71, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges. » Mais j'aime la suite. « Que chaque jour, elle te glorifie. » Que ma bouche soit remplie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira ceci, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Vous savez, c'est ce qu'il y a ici, là, qui sort là. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur. Même si ce passage mettait à nu les choses mauvaises qui sont enracinées dans notre cœur et qui sortent par la suite, nous pouvons aussi transposer cela par les bonnes choses qui sont déposées au fond de notre cœur. Et lorsque nos cœurs sont remplis de louanges, lorsque nous détournons nos regards de nous-mêmes, de nos situations, des circonstances, et que nous le plaçons sur notre Dieu, oui, nous ferons monter vers notre Dieu une louange. Il dira, l'auteur, voilà, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Quelqu'un me dira, pasteur, vous savez, je loue Dieu uniquement dans mon cœur. C'est bien beau, hein? C'est bien beau. Mais ce qu'il y a ici, doit sortir. Vous savez, je le dis avec vraiment un pincement de cœur. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à Gap. 4 ans, ça passe vite. Hein. Mais ça fait 4 ans que je n'ai jamais entendu certains chrétiens louer Dieu. C'est dommage. Très dommage. C'est très dommage de se priver. De se priver de ça. Il y a un pasteur qui nous raconte cette anecdote lorsqu'il était jeune converti dans son assemblée. Un ancien de l'église, pour l'encourager à prendre sa place dans la louange, dans la prière, à la fin du culte, il vient, l'ancien vient lui taper à l'épaule en disant « Écoute, aujourd'hui je n'ai pas dit amen à ta prière. Aujourd'hui je n'ai pas dit amen. » Il voulait lui faire comprendre qu'il n'a pas entendu louer Dieu. Et le pasteur nous disait que, en tant que jeune, quand il a entendu cela, ça l'a remué. Et il s'est dit, prochainement, il faut que je loue Dieu. Parce que, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'assemblée des justes, quand nous louons Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Par ma louange, je peux encourager mon frère, parce que je ne sais pas ce que mon frère vit, je ne sais pas ce que ma sœur vit, mais lorsque j'élève ma voix pour proclamer la grandeur, la puissance, et lorsque j'apporte ma reconnaissance, cela peut réconforter ma sœur, cela peut encourager mon frère à prendre de l'élan et à se dire, tiens, je vois un tel qui, malgré sa situation, a la force de louer Dieu, alors moi aussi. Quand je me prive, je prive les autres. Quand je me prive, je prive les autres. Parce que ma louange qui monte à Dieu, c'est pour mes frères et sœurs. Le fondement de la louange du croyant, je termine avec ceci. Sur quoi se fonde ma louange à Dieu ? Lorsque Ézéchias va prononcer ces paroles, au verset 16, il dira ceci, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Seigneur, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » La louange se fonde donc sur la bonté de Dieu, pas sur nos mérites. Dieu ne nous donne pas, lorsque Ézéchias était dans cette situation, voilà, il n'a rien fait pour mériter la bonté de Dieu. Vous et moi, nous n'avons rien fait et nous ne ferons rien, absolument rien, pour mériter la bonté de Dieu. Paul dira, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le Seigneur, dans sa bonté, ne nous a pas donné ce que nous méritions. Il nous a donné ce que nous ne méritons pas. C'est ça la bonté de Dieu, qui se traduit par sa miséricorde et sa grâce. Dieu qui est bon en tout temps. Oui, il dira, c'est par tes bontés, c'est par sa bonté, c'est parce que Dieu a manifesté sa miséricorde alors que nous étions voués à la condamnation. Oui, nous étions voués à la condamnation, mais Dieu, dans son amour, ne nous a pas condamnés. Il a livré son fils Jésus qui, étant venu sur la terre, n'a pas regardé qu'à lui-même. Il voulait amener tous les hommes dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, a vu le sacrifice parfait de Jésus. Et il nous a accordé son amour. À cause de cela même, je dois, en tout temps, exprimer ma reconnaissance à mon Dieu. Paul dira ceci dans son épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et qu'est-ce que dit la suite ? Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Et il continue en disant, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement pour toutes choses. Pour toutes choses. Même parfois, il y a des choses qui sont à ma défaveur, je dois rendre grâce à Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si à mes yeux la situation est défavorable, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me permet d'être dans cette situation. Mais quand je détourne mes regards de moi-même et que je dis « Seigneur, que ta volonté soit faite », quand je bénis Dieu, quand je loue Dieu, quand je remets ma vie et ma situation entre les mains de Dieu, vous savez, le Seigneur se glorifie. Lorsqu'il est dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, vous savez, quand je détourne mes regards de moi-même et que je les replace sur Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit son cœur. Il est heureux de voir sa création, sa créature retourner à lui, revenir constamment vers lui. Ça plaît à Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu se réjouit, nous sommes réjouis. Quand le cœur de notre Père est réjoui, les enfants ne peuvent pas ne pas être réjouis. Quand papa est béni, quand le Père est content, il bénira les enfants. Voyez-vous, frères et sœurs, soyons des vases débordants de louanges à notre Seigneur. Malheureusement, on s'entretient parfois de mauvaises choses. Des situations qui sont là et on donne, sans le vouloir, on donne de l'importance. Même aux situations difficiles que l'on vit. On passe tout le temps à redire ces choses-là. Sans oublier qu'à force de prononcer ces choses, le diable s'en sert pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais quand je proclame Dieu, même au milieu de la tribulation, même dans la difficulté, dans la maladie, quand je bénis Dieu, quand je regarde qu'à Dieu, je sais que Dieu se glorifiera. Oui, il se glorifiera. Au psaume 119, je termine avec ce verset. Psaume 119, verset 164. Le psalmiste dira ceci. Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Sept fois le jour. Dites-moi, quand nous nous sommes réveillés ce matin, combien de fois avons-nous célébré Dieu? Vous savez, célébrer Dieu, ce n'est pas uniquement ici. Hein. Ce n'est pas uniquement quand le peuple se rassemble. Non. Quand je me réveille, parfois quand on se réveille déjà, il y a tout qui s'enchaîne dans notre tête. Quand à peine mis le pied à terre, voilà, il y a tout déjà qui commence à s'enchaîner. Et on n'a même pas le temps. Je me mets avec vous, hein. On n'a même pas le temps de dire Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ce salut. On est vite envahi par les soucis qu'on n'a même pas le temps. Et après, on se dit, ouh, le soir, on rentre, on dit, oh, quelle journée. Quelle journée. Quelle mauvaise journée. Alors que Dieu attendait que je vienne vers lui. Je parle pour moi. Hein. Je parle pour moi. Je suis responsable de ma vie. Dieu attendait que je vienne vers lui lorsque je me réveille le matin pour dire merci papa. Merci papa. Merci par avance pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci parce que même si mes yeux ne voient pas, je sais que tu es à l'œuvre. Je sais que tu conduis toutes choses. Cette fois, le jour, c'est pas pour rien, 7 c'est le chiffre parfait. Ça ne veut pas dire que ça va être 7 fois, mais voilà, ça montre à quel point, sans cesse, nous devons louer Dieu. Nous devons lui accorder la reconnaissance qui lui est due. Alors frères et sœurs, j'aimerais que l'on soit encouragés. Ne laissons pas les circonstances que nous vivons nous détourner au point que nous sombrons en pensant qu'en nous, en pensant qu'aux circonstances. Non. Oui, ça se dégrade, je le sais. Ça se dégrade. Humainement, on se dit comment faire ? Comment faire ? Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible humainement. Impossible humainement. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Dieu est au contrôle. Je sais une chose. Il tient toutes choses entre ses mains. Je sais une chose, il a tout pouvoir. Je sais une chose, un jour viendra où il mettra un terme. Amen. Et dans ma confiance, je suis zen. Je ne suis pas ébranlé. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, vous ne craignez pas pour vos enfants. Je dis, mais pourquoi je vais craindre pour mes enfants? Je les éduque à ma manière dans les voies du Seigneur, mais je sais que le Seigneur a sa main sur leur vie. Je ne vais pas m'inquiéter pour elles parce que la situation est désastreuse au dehors. Dans mon inquiétude, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon inquiétude? Sinon de nourrir des choses qui vont germer dans mon cœur et qui ne vont pas être à la gloire de Dieu. Je dis, mes enfants, même si elles sont terribles, elles sont entre les mains du Seigneur. Et je bénis Dieu. Frères et sœurs, ne nous inquiétons pas. Faisons confiance à notre Dieu. Ce n'est pas une confiance aveugle, hein. Attention. Ce n'est pas une confiance aveugle. Non. Même si j'ai confiance, je fais ce que Dieu me demande. Eh oui. La confiance n'est pas aveugle. Ce n'est pas en disant Dieu connaît tout. J'entends parfois. Ah Dieu, parce que vous savez, Dieu sait tout. Hein. Dieu peut tout. Mais oui, il nous responsabilise aussi. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais que l'on soit encouragé, même dans ces temps sombres, que nos yeux soient fixés sur notre Dieu. Que la louange revienne à notre Père, parce qu'il en est digne. Il dira, Ézéchias, après que le Seigneur lui a rendu la vie, il dira, le vivant, lui qui était destiné à la mort, le vivant, c'est lui qui te loue. C'est celui que tu as fait sortir de la fosse. C'est lui. Paul dira aux Colossiens, béni soit Dieu qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. À cause de cela même, ne sommes-nous pas appelés à louer Dieu, à lui rendre toute la gloire. Que son nom soit béni. Oui, que son nom soit béni.